Commençons aujourd'hui en se rapportant à l'Évangile de Luc, chapitre 24. L'Évangile de Luc, chapitre 24. Ici, nous trouvons l'un de mes récits favoris après la résurrection de Jésus. Nous trouvons un exemple d'un type de disciple. Il y a de l'humeur intégrée dans ce récit. Mais il y a aussi des propos très, très profonds qui sont mentionnés par Jésus-Christ. Donc, examinons Luc 24 et lisons d'abord le passage sans trop de commentaires. Luc 24, le verset 13. « Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. » Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Donc ici, ça veut dire que tout ce qui s'est passé pour la mort de Jésus et le fait qu'il soit enseveli et que le matin, ils n'ont pas trouvé son corps. Et donc, tout ça, c'était des nouvelles avec d'autres miracles aussi. Mais c'est ça qu'ils discutaient. Et puis, pendant, verset 15, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de la reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » Des choses très visibles. Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 22, nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés et s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne faillit-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Pour moi, c'est comme si Jésus dit, « Ne connais pas tu ta Bible ? Ne connais pas tu tes Écritures ?» C'est un peu ça. Et puis au verset 27, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village, on va s'arrêter là. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lui, Jésus. Il a relié les points pour dire, bien, si tu n'as pas compris, Je vais t'expliquer et comme ça tu sauras, tu vas comprendre. Mais c'était quoi le matériel? C'était quoi le texte? C'était l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Composé de la loi, des prophètes et des écrits. Trois sections que nous connaissons par les noms comme ça, mais c'est la loi de Moïse, la Torah, qu'on appelle aussi le Pentateuch, c'est les prophètes, les Nébéim en hébreu aussi, et les psaumes, ou les écrits, qui c'est pas seulement les psaumes, mais aussi d'autres choses, qui s'appellent les Ketubim. Donc pour la tradition juive, la Bible, l'Ancien Testament, se divise en trois portions, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Et c'est avec ça que Jésus a dit, n'as-tu compris? Est-ce que tu n'as pas compris les choses que les prophètes ont annoncées à propos de moi? Donc, il existe suffisamment de preuves dans le Nouveau Testament que du temps de Christ, la configuration finale des livres de la Bible hébraïque avait été déjà établie. Et quand nous regardons ce passage, ça nous donne quand même un support pour dire que Jésus leur a expliqué les choses qui étaient disponibles, des écrits, des textes qui étaient disponibles pour apprendre. Mais continuons un petit peu plus loin, au verset 42. Au verset 42, on va sauter quelques versets. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Verset 42, « Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. » Donc, il était parmi les disciples, il s'est apparu à eux. « Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes ou les écrits, dans ces trois sections. » Verset 45, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Frères et sœurs, c'est quelque chose qui nous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Dieu nous a déjà ouvert l'esprit pour comprendre, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. On est là car Dieu nous a appelés, car Dieu est intervenu dans notre vie pour nous donner la possibilité de comprendre. Et puis, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons compris et nous sommes là pour louer Dieu à cause de lui, pour obéir à Dieu. Donc, il est intéressant que Jésus, à deux reprises, est obligé, à cette époque-là, tout à la fin de l'évangile de Luc, il est obligé de reprendre le tout pour tout expliquer de nouveau. Parce que le monde a quand même été mis à l'envers, n'est-ce pas? Quand il a été mis à la mort par les autorités de ce monde. Donc, le monde était un peu mis à l'envers et Jésus a dû réexpliquer ces choses pour que les gens comprennent. Et ce que nous voyons aussi, c'est qu'il leur ouvrit l'esprit à plusieurs reprises dans le ministère de Jésus-Christ. L'esprit des gens qui l'écoutaient n'était pas ouvert. Souvent, plutôt, c'était fermé. Mais il fallait qu'ils le disent quand même. Il fallait qu'ils parlent en parabole. Il fallait qu'ils expliquent certaines choses, même devant des personnes qui ne comprenaient rien du tout. C'est parce que ça servait à son époque comme avertissement des choses à venir, comme accomplissement de tout ce qui était, comme il a mentionné, tout ce qui était déjà annoncé dans les prophètes, dans la loi et dans les écrits. Donc, il fallait qu'ils disent ces choses, même si les gens ne comprenaient pas. C'était son rôle. C'était ça, lui, la parole de Dieu. Donc, il était envoyé pour expliquer ces choses et il a accompli son rôle en faisant ces explications, en s'appuyant toujours aussi sur ces textes, sur les Écritures, sur les choses établies. Il ne commençait pas des choses à zéro pour lui-même. Tout ce qu'il faisait, c'était par la volonté du Père. C'est ça le rôle de Jésus-Christ ici. Et pour moi, c'est étonnant de voir que ses disciples avaient à ce moment, après avoir tout vu, ils avaient besoin de réentendre les choses expliquées. Et est-ce que, même si ce n'est pas très souvent mentionné, est-ce que c'est possible que nous trouverions d'autres exemples dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, où Jésus même ou d'autres vont expliquer les Écritures à ceux qui l'entouraient? Oui, on va trouver à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, en particulier dans les évangiles, les prophètes mentionnés, parce qu'il fallait que beaucoup de choses soient accomplies avec la vie et la prédication de Jésus-Christ. Donc, ici, c'est juste un exemple parmi plusieurs, mais un exemple étonnant quand même, parce qu'il fallait que ces gens réécoutent ces choses dans un nouveau contexte qu'ils n'avaient pas compris auparavant. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que nous aussi, de temps en temps, nous devons quand même réentendre certaines vérités, reconsidérer certaines vérités, certaines choses que nous avons déjà établies, nous tenons ferme dans la vérité et dans la foi, mais il est important chaque année aussi de passer par ces étapes aussi que Dieu nous a données, comme par exemple les fêtes de l'Éternel, pour des rappels aussi. Donc les fêtes de l'Éternel, et nous nous préparons pour les fêtes de l'automne déjà, et donc il est important que nous soyons présents pour réentendre peut-être certaines choses, ce soit des rappels, et aussi peut-être pour que l'esprit soit ouvert à d'autres choses que nous n'avions pas encore compris en plénitude. Est-ce que vous, comme moi, vous êtes capable de dire « j'ai pas tout compris la première fois, j'ai quand même besoin de réétudier certains passages, certaines choses pour mieux comprendre » Nous sommes tous, je pense, dans cette même catégorie. Même ceux qui étaient avec lui, qui le voyaient, qui passaient leur temps avec, eux, ils avaient besoin de réentendre ces choses. Donc, ne soyons pas découragés que vous n'avez pas la Bible dans la tête comme ça. Hein? OK? On n'est pas Google, nous. Ça, c'est une machine. Ça, c'est un ordinateur. Mais on a besoin, on est fait pour ça. On peut oublier certaines choses. Il y a quand même des savants qui ont quand même la capacité de capter beaucoup d'informations. Mais même s'ils ont capté, est-ce qu'ils ont vraiment considéré et compris toute la signification avec chaque élément? Et comme je vous ai déjà mentionné dans le passé, nous changeons aussi. Quand un événement se produit dans la vie, ça nous amène à une réflexion que nous n'avons jamais eue auparavant. Quand quelque chose est passé, comme le mariage, comme un décès dans la famille, comme n'importe quelle chose, comme un déménagement, comme un problème de santé, nous sommes amenés à réfléchir à certaines vérités d'un autre point de vue, que avant ce moment-là, c'était pas possible que nous comprenions en toute plénitude cette vérité, parce que c'était pas 100% applicable à notre vie. Par contre, ce que nous voyons ici, c'est que l'explication donnée, c'est après la mort et la résurrection de Jésus. Et il fallait que Jésus tisse les liens entre ces événements et la vérité et les prophètes et tout ce qui était annoncé auparavant. Donc, c'est quand même intéressant. C'est un intéressant, un propos intéressant. Verset 46, « Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Voilà, ce sont des mots très puissants pour nous qui étudions la Bible. Parce que même si nous ne sommes pas témoins oculaires de choses passées, nous sommes témoins de la vérité qui a été révélée à nous. Et également, quand même, Dieu intervient dans notre vie. Donc, nous sommes témoins de ces choses aussi, de son intervention dans notre vie et la vie de tous ceux ici. Je suis quand même certain, je suis convaincu que si on passait du temps, si on se demandait aujourd'hui après l'Assemblée de rester assis et de lever la main pour dire les choses que Dieu nous a fait, qu'il n'y a aucune personne dans cette salle qui n'aurait pas d'exemple de quelque chose que Dieu a fait de miraculeux pour nous. Et voilà, je suis convaincu que vous savez tous ce que je veux dire. Il a déjà démontré sa présence, son comportement envers nous. C'est lui qui a ouvert la porte en premier. C'est pas nous qui étions capables d'aller le chercher, de comprendre tout seul. Il faut comprendre le miracle de l'appel de Dieu. C'est très important. Il nous ouvre l'esprit tout comme Jésus avait ouvert l'esprit de ses disciples ici. Et des fois, il ouvre l'esprit pour nous à un moment propice aussi. Parce que avant, ça n'aurait pas été très, ça n'aurait pas eu de sens. Et des fois, il ouvre l'esprit à un moment très propice pour qu'on puisse comprendre d'une perspective ou d'un point de vue que lui, il a préparé. Donc, des fois, je parle avec des personnes qui ont été appelées à la jeunesse ou dans l'âge d'adulte, jeune adulte, et des fois, on me dit que moi, je voyais que quelque chose qui s'est passé avec moi, que Dieu semblait être avec moi, Dieu semblait avoir intervenu avec moi, même avant que je comprenne certaines choses. Et moi, je suis aussi dans cette catégorie-là, en arrière-plan, quand je regarde tout ce qui s'est passé avant que vraiment j'avais vraiment compris, je suis quand même convaincu que Dieu intervenait pour moi dans ma vie avant. Donc, il avait déjà, si vous voulez, commencé à travailler avec nous avant d'ouvrir la porte de la compréhension. Mais qu'est-ce qui se passe ici quand nous voyons que Jésus avait besoin de relier les points pour que ses disciples apprennent à comprendre la vérité? Donc, je vous ai déjà mentionné les divisions de la Bible, et en particulier aujourd'hui, nous allons considérer plus les prophètes. Les prophètes et leur but, leur rôle dans tout ce que nous venons de lire. Et c'est très applicable parce que ce n'est pas seulement dans les évangiles que les prophètes sont mentionnés. Considérons Actes chapitre 7. Nous avons ici Étienne, disciple de Jésus-Christ. Et dans son témoignage, Étienne cite Amos. Il cite les prophètes. Et donc, on va le lire. Il le cite et en même temps, les gens qui l'écoutent, qu'est-ce qu'ils font quand ils entendent? Est-ce qu'ils se disent, « Ah oui, t'as raison, j'aurais dû penser à ça. » Parce que quand même, c'est quand même clair dans Amos que les choses vont passer comme ça. C'est vrai, Christ est celui qui l'a dit et que t'as raison, Étienne. On va te laisser partir. Est-ce que c'est comme ça que les gens ont répondu? Non. Non. Ils ont réagi un peu différemment. On va lire ce que ça produit. Pensez comme ça que c'est la vérité qui a produit cette réaction très forte, très agressive. C'est la vérité. Et c'est quand même dans d'autres passages que même l'esprit charnel est contre, réagit contre la vérité. Ne veut pas entendre la vérité. Mais ici, dans Actes chapitre 7 et le verset 42, nous avons l'exemple de Étienne. Étienne qui avait déjà commencé à un peu faire le résumé de la loi, n'est-ce pas? Si vous considérez, si vous connaissez ce passage, le chapitre 7, qu'est-ce qu'il a cité? Il a cité la loi. Il a raconté en résumé, en gros termes. Il n'a pas commencé tout à fait en Genèse, mais il a commencé avec quelque chose qui était applicable à lui. Il commençait plutôt à l'Exode et la naissance de Moïse. Mais même avant, non, il a commencé avec bien avant, avec Abraham. Donc, quand il a commencé son discours, c'était un peu comme il citait la loi, comme il citait le Torah, la Torah. Donc, il se sert aussi de la Torah pour expliquer les choses, pour commencer avec l'Ancien Testament. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens vont dire que, on va laisser de côté l'Ancien Testament et on va prêcher Christ, on va prêcher les évangiles, on va tout oublier parce qu'on n'a plus besoin de tout ça. On n'a plus besoin de la loi, on n'a plus besoin des prophètes. Tout est confirmé, tout est fait avec Christ. Mais si c'était le cas, est-ce que Étienne aurait commencé comme il a commencé ici dans Actes 7 avec une explication, un résumé de tout ce qui se passe dans la loi de Dieu et comment Dieu avait intervenu dans la nation d'Israël, et jusqu'à quel point Dieu était déçu avec ce que la nation d'Israël avait fait. Donc, verset 42, « Alors Dieu, Étienne dit ceci, « Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. » encore une fois, les prophètes, et ici c'est Amos qui cite, « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Rephaïm, ces images que vous avez faites pour les adorer. » Donc, ils étaient en contrarié avec la loi, avec les commandements, avec le décalogue même, les 10 mots. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Donc, voilà une condamnation, un jugement sur les mauvaises actions d'Israël à cette époque-là. On parle ici, ce qu'il dit, c'est le veau d'or. C'est plutôt ça, et en plus d'autres faux dieux, d'autres dieux de cette époque. Donc, il cite Amos, et il cite ces choses pour expliquer ce que a été confirmé dans le passé. Mais qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça produit chez ceux qui le condamnaient? Ça produit quelque chose, c'est pas très bon. Il cite Amos pour décrire le jugement de Dieu à propos de quelque chose qui s'est passé dans le Torah. Je vous rappelle qu'on parle de la base, les Écritures, la Torah, en étant la première partie. On dit souvent « Moïse vous a dit ». C'est la même chose aussi de dire « la Torah nous explique ». C'est un peu ça. Quand on dit dans les Évangiles, par exemple, « Moïse dit ceci », c'est écrit par Moïse, c'est écrit dans la Torah. Donc, pour expliquer un peu le contexte. Maintenant, au verset 51, un peu plus loin, les gens ignoraient et même persécutaient les prophètes de Dieu. Et c'est ça le point que nous allons souligner ici. Un point intéressant que c'est souvent négligé, c'est que dans le Nouveau Testament, les autorités sont sévèrement critiquées car ils ont fait ce que les autorités juives avaient fait depuis des siècles, et c'était l'idée de persécuter les prophètes de Dieu. Donc, Étienne souligne ce point, et qu'est-ce que ça inspire? Il inspire la rage de ceux qui le persécutaient en ce moment. Verset 51. « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste de Jésus-Christ, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui, contre Étienne. Mais Étienne ne faisait pas quelque chose de bizarre ici. Il a simplement souligné un point important dans l'instruction de son maître Jésus-Christ. Il se servait de l'Ancien Testament, entre guillemets, qu'on va l'appeler ça, les Écritures. Il se servait des Écritures pour expliquer le contexte de son époque, que Jésus-Christ est l'accomplissement de ses prophéties, de ses prophètes. Et donc notre Sauveur, Jésus-Christ, se servait aussi des prophètes et de ces deux façons aussi, pour instruire et aussi pour condamné à la loi, par exemple, et à la fois pour instruire, pour nous instruire, ou même avertir pour les choses à venir, pour ses disciples et ceux qui allaient comprendre avec l'esprit ouvert, mais puis en même temps, il se servait des Écritures, en particulier les prophètes, pour démontrer à ses disciples que ses souffrances étaient prévues dans les prophètes et que les autorités de son époque n'allait pas écouter. C'était pas prévu qu'il change d'avis. C'est pour ça que, et on a déjà mentionné ça récemment, que Jésus attendait le bon moment pour faire certaines choses, pour dire certaines choses Il attendait le bon moment pour le faire, pour expliquer certaines choses, parce qu'il savait le cœur de ceux qui l'écoutaient. Il comprenait que ça produirait la rage et que, avant que ça se fasse, avant qu'il soit mis à mort, que certaines choses devaient s'accomplir. Est-ce que vous saviez que le livre d'Ésaïe est cité à nombreuses reprises dans le Nouveau Testament? Le livre d'Ésaïe, le rouleau d'Ésaïe, plusieurs fois dans le Nouveau Testament. On peut se demander pourquoi. Mais tout revient à tout ce que nous venons de dire aussi. Et nous allons considérer quelques façons par lesquelles les écrits du prophète Ésaïe nous instruisent aujourd'hui. Donc, ramenons le contexte. Si Jésus était obligé d'expliquer à ses disciples pour relayer les points, est-ce que nous aussi, on serait quand même des bénéficiaires, ceux qui seraient intéressés ou qui vont bénéficier d'une explication de ces choses? D'abord, Ésaïe, dans le Nouveau Testament, une chose très importante à la base, c'est que Ésaïe était utilisé pour déclarer que Jean-Baptiste était lui qui était celui qui allait annoncer l'arrivée de Jésus. Donc, considérant Matthieu 3, il y a quand même le verset parallèle dans l'évangile de Luc, chapitre 3 aussi. Ce sont les mêmes citations dans les deux évangiles. Et puis dans Jean, vous avez Jean 1, 23. Donc, trois fois dans trois évangiles, ce n'est pas quelque chose à oublier. Ce n'est pas quelque chose à prendre au léger. Donc, d'abord, nous avons Jean-Baptiste qui allait annoncer l'arrivée de Jésus-Christ. Matthieu 3 et le verset 3. Il cite Ésaïe pour expliquer, pour que ces choses qui se passent aient un sens, pour qu'ils soient compréhensibles. En particulier, quand le moment est venu pour l'esprit d'être ouvert. Encore une fois, tout le monde n'a pas compris en premier lieu. Mais il fallait que ces choses soient dites et écrites pour que nous comprenions, pour que nous soyons capables de relier aussi les liens entre les prophètes et les choses qui sont passées à l'époque dans le premier siècle et dans le ministère de Jésus-Christ. Donc, même avant le début de son ministère, il y avait Jean-Baptiste. Et nous avons Matthieu chapitre 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. » Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc ici, nous avons une citation d'Ésaïe. Et c'est Ésaïe qui dit ces choses dans Ésaïe 61. On ne va pas y reporter. Mais c'est important, et à d'autres reprises aussi, Luc 3, verset 4, et Jean chapitre 1, verset 23. Vous allez peut-être trouver ça dans les index de vos Bibles, mais ceci, cette vérité est importante, que Jean-Baptiste, que Ésaïe, le prophète, avait dit que c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Et puis, verset 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Donc, Jean-Baptiste avait un ministère avant l'arrivée de Jésus-Christ. Maintenant, Ésaïe, dans le Nouveau Testament, est cité en deuxième lieu, pour décrire le ministère de Jésus-Christ, pour confirmer, pour valider le ministère de Jésus-Christ. Considérons juste un peu plus loin, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 et le verset 12. Nous avons le contexte dans Matthieu 4 que Jésus avait été tenté par Satan dans le désert. Et maintenant, ce que moi j'ai dans ma Bible, c'est début du ministère de Jésus-Christ à Capernaum. Donc, vous savez qu'il a commencé son ministère vraiment à prêcher à partir de Galilée, de cet endroit-là. Donc, Jésus ayant appris que Jean, verset 12, excusez-moi, que Jean avait été livré, donc celui qui avait été annoncé était livré aussi, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zébulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zébulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée, des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc, verset 17, il est clair ici, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, il parle déjà, souvent on dit, « Qu'est-ce que c'est l'Évangile ?» Pour résumer, l'Évangile de Jésus-Christ, c'est, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » On dit des fois plus que l'Évangile, c'est d'autres choses. Et on va souvent oublier cette partie-là. Et on peut se demander pourquoi on met tellement un accent sur le royaume des cieux, sur le royaume de Dieu à venir ici-bas. Et c'est parce que c'est comme ça que lui, il avait commencé son ministère. Il avait commencé à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, son ministère, si vous voulez, coordonné avec Jean-Baptiste, mais il n'était pas pareil, n'était pas le même, était quelque chose de plus. Et tout ça était décrit dans les prophètes de l'Ancien Testament. Ensuite, les guérisons qu'il allait accomplir parmi d'autres miracles sont confirmées par Ésaïe dans le Nouveau Testament. Donc, considérons maintenant Matthieu 8 et le verset 14. Matthieu 8, verset 14, un peu plus loin. J'ai choisi Matthieu, mais on pourrait également choisir d'autres évangiles, mais j'ai choisi plus Matthieu aujourd'hui pour que ça soit tout un fil. Matthieu 8 et le verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc voilà, nous avons un exemple de la confirmation de ce ministère de Jésus-Christ ici par une citation d'Ésaïe. Et pour nous aussi, cette citation est très importante parce que nous aussi, nous avons accès à ce même guérison, n'est-ce pas? Nous pouvons maintenant prier à Dieu de nous guérir et c'est par le sacrifice, par les souffrances, par tout ce qui a été vécu par Jésus, les meurtrissures et tout, que nous sommes guéris. Donc, ce parti n'a pas cessé d'être vrai pour nous aujourd'hui. Donc, il est important à l'époque et il était important pour nous de considérer que c'est celui qui est venu, c'était son rôle. Il n'est pas venu comme eux, ils attendaient un Messie, comme un roi puissant, qui allait bâtir les nations et établir le trône de David à Jérusalem en ce moment-là. Maintenant, encore une chose, on a décrit déjà le ministère de Jean-Baptiste, on a décrit le ministère de Jésus. Maintenant, Ésaïe également avait confirmé avec ses propos, ses paroles, et on parle des prophètes, il avait quand même annoncé le comportement et le rôle de Jésus-Christ, les choses que Jésus-Christ allait subir en venant ici-bas. Donc, Luc chapitre 4, on peut utiliser Luc pour celui-ci. Luc chapitre 4 et le verset 16. Donc, quel est son comportement? Quel est son rôle, encore une fois? Est-ce que c'est d'être venu en tant que roi des rois dans le premier siècle? Ou est-ce qu'il y avait un rôle différent? Donc, verset 16, Luc 4, verset 16, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, » parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il s'est arrêté, il roula le livre, le rouleau, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc, dans son rôle, il est venu pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer les captifs la délivrance, pour donner la vue aux aveugles. C'est ce qu'il a accompli dans plusieurs miracles, comme l'apôtre Jean a même mentionné, que les livres ne pouvaient pas contenir tout ce que Jésus a accompli dans son ministère. Revenons maintenant à Matthieu chapitre 12, pour voir un exemple de quelqu'un qui reprend la vue. Et quelle est la réaction? Quelle est la réaction? Comme je vous ai dit, il a fait des choses d'une façon très méthodique pour accomplir ses prophéties des Écritures, en particulier d'Ésaïe. Matthieu 12 et le verset 15. Matthieu 12 et le verset 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Donc, une grande foule le suivit. Donc, il savait que les gens allaient le poursuivre. Donc, une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. » Et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Donc, ce n'est pas un exemple précis, mais c'est plus un comportement. Désolé si je n'ai pas pris un exemple précis là-dedans. Mais il y en a nombreuses, parce que si vous lisez Matthieu, on était en Matthieu 12, si vous lisez le verset 14, il y a de nombreuses guérisons en général. Donc, comme nous avons lu les versets 15 à 21, les guérisons étaient nombreuses. Il guérit tous les malades. Donc, ce n'est pas un cas précis, mais c'est plus un comportement, un rôle qu'il a accompli. Un rôle qui était annoncé dans les prophètes. Mais la question qui est très pertinente pour nous aussi, c'est quelle est la réaction de ces choses, à ces choses par les autorités, par les gens de son époque. On peut faire sauter quelques siècles pour demander aujourd'hui quelle est la réaction de ceux qui entendent ces choses, ceux qui écoutent ces choses, qui lisent ces choses. Est-ce que en général, ces choses sont acceptées? Est-ce que ces choses sont vont provoquer une fidélité, vont provoquer quelqu'un à se repentir? Ils peuvent, si l'esprit est ouvert, mais souvent dans notre époque maintenant, et même à cette époque-là, les réactions étaient plus à rejeter ces choses. Même si c'était confirmé, si les actes, si les choses que Jésus avait fait étaient une confirmée de ce qui allait être annoncé dans les prophètes, les gens ne voulaient pas. On l'a vu dans l'exemple de Étienne, que eux, ils étaient enragés d'entendre ces choses, d'entendre la vérité. Considérons un peu plus loin Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. C'est prévu que ces gens ne comprennent pas. Et pour nous qui comprenons, soyons heureux, soyons contents de notre compréhension, réjouissons dans cette compréhension. Nous ne sommes pas appelés à rester tout muet, tout silencieux par rapport à tout ce que nous avons vu dans notre vie, tout ce que nous avons pu comprendre que Dieu fait pour nous. Matthieu 13 et le verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Donc même dans la non-compréhension, dans le rejet du Messie, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ils ont rejeté ces vérités. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu entendre et ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Donc même ceux qui sont parmi Ésaïe, les prophètes, eux, ils auraient bien aimé voir ces choses s'accomplir, mais eux, leur rôle, c'était juste d'annoncer. Eux, ils avaient leur rôle d'annoncer. Mais nous, nous trouvons maintenant dans une situation où nous pouvons regarder en arrière en disant, nous avons pu comprendre la réalisation, l'accomplissement de ces choses. Car il faut que ces choses soient accomplies. Et ils ont été accomplis en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je vous parle en ce moment de choses déjà passées, de choses déjà accomplies. Mais ce même principe que j'explique aujourd'hui est très applicable à nous parce que nous aussi, nous attendons d'autres choses, n'est-ce pas? Pour nous, d'autres prophéties sont très à propos pour l'avenir qui viendra bientôt dans les derniers temps. Nous attendons quelque chose de plus, quelque chose qui n'est pas encore accompli. Donc, c'est un avertissement pour nous de mettre notre foi, de se baser solidement dans la parole de Dieu, dans la compréhension de ces choses qui vont se passer, parce que sinon, on risque de devenir comme ceux qui l'ont rejeté auparavant, qui ont même été amenés à rejeter Christ lui-même pendant son ministère. Eux, ils n'avaient pas les oreilles pour entendre, ils n'avaient pas vraiment les yeux pour voir, mais nous pouvons nous réjouir parce que ces choses nous ont été dévoilées. Voilà un sujet de jouissance, un sujet de remerciement, de remercier Dieu qu'il nous a donné quand même la possibilité de mettre notre espoir dans ses promesses et d'avoir quelque chose au-delà de ces jours malins, ces jours qui sont très durs pour le monde. Nous ne sommes pas aveugles. Ces jours ont leur propre but. Dieu a un objectif. Il va réaliser, il va accomplir. Et un jour, nous aurons la possibilité de regarder encore en arrière en disant, voilà, en ces choses ont été accomplies les prophéties de l'Apocalypse de Jean, de certaines prophéties qui ont été données comme Luc 21, comme les prophéties de Jésus-Christ. Un jour, nous aurons la possibilité de regarder en arrière, tout comme eux, à leur époque, il y a 2000 ans, ils avaient la possibilité de dire ou pas, voilà, ces choses sont accomplies dans nos jours. Voilà, on n'est pas encore arrivé à ce point-là, mais Dieu nous a quand même donné son esprit, donné son appel, donné l'Église et la possibilité de s'intégrer dans le corps de Christ. Il nous a quand même donné pas mal de choses qui ont été quand même promises par Jésus-Christ. Nous bénéficions déjà de ces promesses, de ces prophéties accomplies, les choses qui se passent dans l'Église. Je pense tout de suite à Matthieu 28. Est-ce que nous accomplissons cette prophétie, cette mission, si vous voulez? Est-ce que nous accomplissons ceci, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il est avec nous. Il nous accompagne dans nos efforts quand nous sommes quand même fidèles à lui. Mais dans le passé, les gens avaient tendance à rejeter, à avoir de l'hypocrisie, à devenir hypocrite, de ne pas vivre ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient étudié, mais d'avoir une connaissance et de ne pas avoir une pratique, de ne pas laisser la parole de Dieu les changer. C'est ça que Dieu voudrait accomplir en nous. C'est un changement, c'est un gros changement. Il voudrait développer son caractère en nous. Mais voilà ce qui est promis pour nous par Jésus, Matthieu 15. Matthieu 15 et le verset 1. Notre vie aujourd'hui, est-ce que ça c'est conforme à ce que lui il dit ici dans Matthieu 15? Il le dit un peu en réaction. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui honorent Dieu juste avec les lèvres, mais pas avec le cœur? Est-ce que nous voyons ces choses? Matthieu 15, verset 1. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dire, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Donc, encore une fois, ils avaient des traditions, ils avaient la loi, la Torah, le Nevi'im, le Ketuvim. Ils avaient quand même ça, et en plus, tout ce qui était les écrits avec. Donc, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ils avaient inventé leur propre tradition qui était au-delà de ce qui était dans les Écritures. Vous annulez ici, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et enseigne des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Donc, cette politique, ce comportement des autorités de son époque, c'était d'ajouter des fardeaux à des personnes qui souffraient déjà. Est-ce que c'est gentil, ça, d'ajouter un fardeau à quelqu'un qui souffrait déjà? Je ne pense pas que c'est gentil. Ce n'est pas l'objectif de la loi de Dieu. Il le dit lui-même, « Mon joug est doux ». Sa loi n'est pas censée être un fardeau sur nos épaules. Il est censé de nous aider, de nous corriger, de nous tenir sur le bon chemin. Et donc, que le monde y croit ou non, les prophètes servent d'avertissement et d'annonce d'un jugement à venir sur le monde et le pouvoir spirituel qui influence le monde aujourd'hui. Les prophètes, les prophéties de la Bible servent pour ces raisons-là. Certains thèmes dans les livres prophétiques devraient sonner l'alarme dans nos nations actuelles, mais est-ce que les autorités de nos jours vont écouter? Un jour peut-être, et c'est bien que ça soit écrit, les écrits du Nouveau Testament, parce qu'un jour, peut-être, certains n'auront plus honte de s'identifier avec la vérité. C'était même le cas que certains, dans le premier siècle, avaient compris certaines choses, mais ne voulaient pas oser de s'identifier avec Jésus-Christ. Considérons Jean 12, Jean chapitre 12, verset 36. Encore une fois, on discute l'aveuglement de cette époque, l'endurcissement du cœur, et puis, un peu plus loin, cependant, il est mentionné Jean 12 et le verset, à partir du verset 36, mais on ne va pas commencer là, parce que ça répète un peu ce qu'on avait déjà lu. Donc, c'est au verset, on pourrait commencer au verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe, le prophète a prononcé, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent. » et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Verset 42. Pensons à nos jours maintenant. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Je peux demander, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui semblait comprendre certaines vérités, mais qui n'était pas prêt à faire un changement dans leur vie? pour les intégrer dans leur vie. C'est ça que Dieu nous demande si nous sommes sincères dans notre foi, c'est d'agir sur la compréhension. Sinon, on peut craindre les hommes. On n'est pas censé de craindre les hommes. On est censé de craindre celui qui nous a créés. Donc, nous sommes quand même dans une époque différente maintenant. Nous attendons que d'autres prophéties s'accomplissent dans nos jours. Ils sont déjà quand même assez flagrants. Les pandémies, les tremblements de terre, les faux crises. Toutes ces choses semblent augmenter avec chaque année. Mais aussi, nous attendons, comme je vous ai mentionné, le retour de Jésus-Christ, qui nous a été prophétisé. Que même Jésus-Christ lui-même avait besoin d'expliquer à ses disciples, mais bon, comme nous avons vu après sur la route à Emmaüs, eux, ils avaient, en premier lieu, avaient besoin de comprendre juste le petit début de ces choses, ou pas le petit, mais le début de ces choses, en se disant, oui, j'accepte que c'est Jésus-Christ qui est là, qui accomplit les prophéties d'Ésaïe. Mais maintenant, où est notre trésor? C'est aux cieux, n'est-ce pas? Nous construisons, nous mettons notre espoir, nous n'amassons pas nos trésors ici-bas, mais dans le ciel. Et donc, nous mettons notre foi, notre espérance, dans les promesses du monde à venir, dans le millénium, et tout ce qui viendra avec. Par contre, le monde autour de nous est censé de rejeter toutes ces choses, de ne pas accepter ces vérités. Donc, soyons vigilants de ne pas compter sur le monde et les richesses de ce monde, mais amassons des trésors dans le ciel. Et mettons l'accent sur toutes les prophéties qui nous concernent, qui concernent le retour de Jésus-Christ, et le fait que lui, il apportera avec lui une couronne pour ses fidèles. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux à attendre, à prier que ton règne vienne, et de prier que Dieu nous donne la force de persévérer jusqu'à la fin? C'est ce que Étienne a fait. Il n'avait pas peur de dire la vérité, de dire quelque chose qui allait provoquer même ceux qui l'entouraient, qui voulaient le mettre au défi. Il n'avait pas peur. Mais Étienne voyait plus loin quand il a répondu. Il n'a pas répondu à propos de ces choses visuelles qu'il voyait avec ses propres yeux, mais les choses, les promesses qu'il voyait dans son cœur et qu'il avait la foi dans les promesses de Dieu. Donc, à plusieurs reprises, le monde va rejeter la vérité. Nous ne sommes pas censés d'être comptés par ceux qui ont les mêmes réactions, qui s'appuient sur notre propre force, qui comprennent, mais qui ne mettent pas en pratique les vérités spirituelles. Donc, si Jésus a pris le temps de relier les points, de dire que les prophètes avaient annoncé sa venue, et que les prophètes avaient annoncé quelque chose de vrai, et que dans sa vie, ces choses ont été accomplies, alors à nous de faire pareil, à nous de ne pas oublier les promesses qui ont été déjà accomplies et de s'appuyer aussi sur les promesses de toutes les bonnes choses, les très bonnes choses à venir dans le royaume de Dieu et dans le millénium à venir bientôt. En même temps, nous sommes avertis que le monde va continuer en rébellion contre Dieu. Le monde ne va pas avaler et accepter la vérité. S'ils n'ont pas l'esprit ouvert, ce n'est pas leur moment de comprendre. Ça veut dire que même jusqu'à la fin, et on va quand même considérer ces choses en allant vers la fête des trompettes, mais même jusqu'à la fin, l'homme est en rébellion avec Dieu. L'homme ne veut pas accepter que les pouvoirs de ce monde soient détruits et remplacés par Jésus-Christ. C'était le cas dans le premier siècle. Les autorités de ce monde-là ne voulaient pas accepter que le Christ soit parmi eux. Ils ne voulaient pas accepter que leur autorité soit démontée ou touchée ou réduite. Ils voulaient garder le tout pour eux. Mais nous, nous attendons quelque chose de meilleur. Nous attendons les promesses qui seront accomplies très bientôt. Nous vivons dans les derniers temps et nous prions que ton règne vienne parce que nous comprenons. Parce que Dieu nous a donné la possibilité de comprendre les prophètes, de comprendre même le grand prophète, si vous voulez, celui qui est venu nous sauver, Jésus-Christ, de croire en lui et de croire à sa parole. Voyons tout ce qu'il nous a révélé. Il est écrit, et même dans nos vies personnelles, il confirme sa présence, il confirme son intervention avec nous. Donc, nous avons quand même été bénis d'avoir des oreilles ouvertes, d'avoir des yeux ouverts pour voir et pour comprendre la vérité, méditant ces choses.